Turning today to Paul's first letter to the Thessalonians, chapter 5 and verse 21.
Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans la première lettre de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 21. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 21. Éprouvez toutes choses, retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute apparence de mal, éprouvez toutes choses. Et nous considérons ici ces exhortations courtes à la fin de la première lettre aux Thessaloniciens qui sont un défi pour nous. Éprouvez toutes choses ou tester toutes choses. Ce terme vient du verbe penser, méditer sur toutes choses, penser à toutes choses, examiner toutes choses, éprouver toutes choses est une très bonne traduction. Éprouvez même les choses qui pour vous semblent sûres, éprouvez-les si elles sont réellement vraies. Éprouvez toutes choses, toutes doctrines qui sont mises en avant, vous devez les éprouver et en être sûr que c'est là l'enseignement de l'Écriture. Toute pratique également, toute méthode dans l'œuvre de l'Église et de l'Évangile, toute activité, tout, non seulement les doctrines, oh nous aimons les grandes confessions de foi du XVIIe siècle, combien elles sont détaillées et vraies et précises et pleines et profondes avec ces grandes définitions, cette ère des définitions théologiques dans notre pays. Et nous aimons dire que nous affirmons, que nous déclarons la confession de foi de 1689, par exemple, qui est basée sur la confession de foi baptiste ou celle de Westminster. Et il y a également la confession de foi de Savoie, des indépendants. Ces grandes confessions de foi du XVIIe siècle et beaucoup de gens aujourd'hui se tiennent fermement sur ces confessions. Et ceci est bon, mais ce n'est pas suffisant. Éprouvez toutes choses, non seulement les doctrines, mais également la pratique dans l'Église. Ce que nous faisons, notre conduite, est-ce que ceci est en accord avec les doctrines? Et c'est là ce qui est important de nos jours. Parmi les croyants, il y a eu plus d'intérêt récemment dans les confessions de foi, dans les doctrines, mais souvent une grande négligence dans la pratique, ce qu'il faut réellement faire, comment nous conduire, et toutes les erreurs de nos jours qui rentrent dans les églises, et ces choses surprenantes, étonnantes. Et les congrégations, même les pasteurs de l'Église, la congrégation également, n'obéissent pas au commandement du Saint-Esprit qui est donné là par l'apôtre Paul. Éprouvez toutes choses, retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute apparence de mal. Retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute apparence. C'est quelque chose de délibéré. Et une opposition ici, retenez et abstenez-vous. Au verset 22, c'est abstenez-vous de toute apparence de mal. Mais idéalement, dans le grec, c'est l'action opposée du verset 21. Retenez, attachez-vous à ce qui est bon et gardez-vous loin de toute apparence de mal. Ces deux choses sont des termes opposés. Mais nous comprenons ces choses avec notre traduction. Retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute apparence de mal. Mais souvent, nous échouons en cela. Les gens ne s'examinent pas eux-mêmes et ils ne testent pas ce qu'ils écoutent. Il y a toutes sortes de choses insensées qui sont prêchées de nos jours, en particulier à la télévision, par ces prédicateurs de la télévision, ces choses absurdes qui sont prêchées aux croyants. Et tant de non-sens est accepté parce que les chrétiens n'éprouvent pas les choses pour eux-mêmes. Est-ce juste? Est-ce droit? Est-ce vrai? Est-ce une une activité, une pratique qui est juste. Ainsi, c'est un devoir de notre part, éprouver toute chose. Et nous devons nous demander, est-ce que nous faisons cela? Nous ne voulons pas que tout le monde soit là, triste et sombre par rapport à toute chose et critique. Non, mais nous devons éprouver les choses et être certains que nous sommes convaincus que le prédicateur parle selon la parole de Dieu, qu'il montre le texte de l'Écriture, le passage, et qu'il ne lit pas simplement un verset là qui n'a rien à voir, mais que ce qu'il dit est vraiment dans la parole de Dieu. C'est une grande responsabilité que nous avons. Ce texte nous parle de ce droit de notre jugement personnel dans l'Écriture, ou notre responsabilité d'avoir ce jugement personnel dans les doctrines et dans les pratiques. Et ceci est dans l'Écriture. Dans cette année passée, il y avait l'anniversaire des 500 ans du début de la Réforme en 1517. Et Luther et d'autres ont redécouvert les doctrines bibliques du salut et d'autres choses également. Et ces trois choses principales, nous parlons souvent des cinq points de la Réforme, mais les trois premiers principes qui ont été redécouverts était la toute-suffisance de l'Écriture seule et la responsabilité ou le droit du jugement personnel de l'Écriture et la doctrine de la justification par la foi seule. Et je ne vais pas parler de ces trois points, mais je parle ici du deuxième point. Cette responsabilité et ce droit de jugement personnel dans l'Écriture, dans la parole de Dieu, et il y avait ces choses qui contredisaient l'Église catholique de Rome. Et parmi ces choses, ce droit de jugement personnel. Et c'est là les réformateurs qui ont dit que l'Église catholique est dans l'erreur. Quel est leur droit de dire que l'Église est dans l'erreur dans son enseignement? Et effectivement, l'Église était dans l'erreur. L'Église catholique avait perdu les doctrines du salut. Les gens ne pouvaient pas être sauvés parce que ce que l'Église catholiques enseignaient, les empêchaient d'être sauvés. Ils avaient perdu la justification par la foi seule, par la repentance, par la foi en Christ uniquement, en nous confiant en lui, en son sang versé à la croix du calvaire, en sa mort expiatoire qui est le seul chemin pour être sauvé. Et l'Église catholique disait non, non, ce n'est pas le seul chemin. Vous avez besoin de Christ, oui, mais vous avez également besoin de l'Église. Vous avez besoin des rites de l'Église, des sacrements. Vous avez besoin de faire ses bonnes œuvres. Vous devez être fidèle à l'Église. Vous avez besoin de l'absolution du prêtre. Et toutes ces cérémonies de Rome et ses bonnes œuvres avaient mis de côté la justification par la foi uniquement. Ainsi, les gens étaient trompés et leurs âmes étaient perdues. Ils ne pouvaient pas être sauvés par ces erreurs qui étaient enseignées par l'Église catholique, et les choses étaient allées complètement de travers. Ainsi, les réformateurs ont commencé à prêcher la vérité. Ils sont retournés à l'apôtre Paul, aux Écritures, et les gens disaient, « Oh, quel est leur droit de dire que l'Église est dans l'erreur? L'Église mère, l'Église catholique ne peut pas être dans l'erreur. » Et c'est là la doctrine de droit, du jugement personnel de l'Écriture. Les réformateurs ont répondu, « Oh, l'Écriture est la seule autorité. » L'Église catholique disait, « Non, c'est la parole interprétée par l'Église, par les pères de l'Église, par les conseils de l'Église catholique. C'est l'Église seule qui peut comprendre la parole et qui a le droit et la capacité de comprendre la parole. Le pape et tous les cardinaux ont le droit d'interpréter l'Écriture. Seuls eux, les réformateurs, ont dit non, l'Écriture est parfaite. Luther disait l'Écriture est bien plus lumineuse que le soleil même. L'Écriture est claire, la parole de Dieu est entièrement claire et précise et claire dans son enseignement. Oh, il y a certaines choses qui ne sont pas si claires. Ainsi, vous lisez d'autres passages où la même chose est enseignée plus clairement, et vous laissez un passage vous faire comprendre l'autre passage, mais c'est là votre seule autorité. Les papes ont erré grandement, les conseils d'Église ont erré grandement. Ils ont fait bien de grandes erreurs. Alors que le temps passait, le jugement humain a erré et nous devons retourner aux Écritures, à l'origine. Seule l'Écriture a l'autorité. Ainsi, l'Écriture seule, cette doctrine, a été accompagnée par cette doctrine de ce droit de jugement personnel. Ainsi, le jugement personnel ne veut pas dire que chaque individu peut prendre l'Écriture pour lui faire dire ce qu'il veut. « Oh, ceci, c'est mon interprétation, ce que je pense par rapport à ce passage. » Non, bien sûr que non. Dans 2 Pierre chapitre 1, il est écrit qu'aucune prophétie de l'Écriture ne vient d'une interprétation particulière. Aucune parole de Dieu ne peut être d'une interprétation particulière dans le sens où nous n'avons pas besoin de la faire courber pour lui faire dire nos idées ou voir la parole de Dieu par nos propres regards. Mais notre droit, c'est de retourner aux Écritures et d'essayer de chercher son vrai sens, ce que l'Écriture enseigne réellement. Et nous faisons cela en comparant des passages avec d'autres passages. C'est là la seule autorité, la parole de Dieu, qui détermine toute chose en ce qui concerne la religion. Et l'Église catholique disait non, Luther ne peut pas dire cela, aucun autre réformateur ne peut affirmer cela. Nous seuls avons le droit de l'interpréter. Et comment est-ce qu'il l'interprétait? De la manière la plus absurde et fausse, qui était contraire à la parole de Dieu, et pour approuver toutes sortes de doctrines erronées. Et de même, aujourd'hui, l'Église catholique croit encore dans l'autorité de l'Église, de ses édits, du pape et des conseils catholiques. Ce que l'Église pense tout aussi important que la parole de Dieu. Non, nous avons ce droit de jugement personnel. Et je voulais parler de ceci. L'Écriture est claire. On peut l'interpréter par elle-même. Il y a deux grands principes qui nous aident en cela pour comprendre l'Écriture et l'interprétation de l'Écriture. L'un de ces principes, c'est, pour utiliser un terme des réformateurs, il y a un livre qui est appelé « L'analogie de la foi ». Et ceci signifie cela, que quand vous lisez l'Écriture, elle sera entièrement en accord avec toutes les doctrines qu'elle nous explique. Et ceci signifie cela, il y a certaines choses qui sont sûres dans l'Écriture, qui sont certaines doctrines de la foi. Vous pouvez faire une liste de ces choses et vous pouvez dire que toutes ces doctrines sont enseignées toujours à nouveau dans la parole de Dieu. Elles sont infaillibles, il n'y a aucun doute, c'est là l'enseignement de la parole de Dieu. Et tout autre passage, nous pouvons le comprendre à la lumière de ces choses qui sont tellement claires, entièrement sûres et certaines. Et ceci est appelé, c'est un terme ancien, c'est appelé l'analogie de la foi. Vous prenez la foi, ces doctrines fondamentales de la foi, et quand vous en venez à un passage qui vous semble peu clair, vous le comprenez à la lumière de toute la foi, ces choses qui sont claires. Et c'est là l'un des points, l'un des principes qui est très bon. L'apôtre Paul dit, si quelqu'un prophétise, qu'il le fasse selon la foi. Et ce que cela signifie, c'est qu'il le fasse en comparaison avec la foi. Toute prophétie, dans ces jours où il y avait encore des prophéties inspirées, l'une des manières d'éprouver ces prophètes et de voir s'il est authentique. Au temps du Nouveau Testament, il y avait encore des prophètes parce que la parole de Dieu n'était pas encore entièrement écrite. Pour attester ces prophètes, c'est que tout ce qu'ils disent est entièrement en accord avec ces doctrines claires de la foi qui sont répétées tant de fois dans l'Écriture. Si quelqu'un a une prophétie qui contredit la foi, alors ceci serait faux et dans l'erreur, et il n'est pas inspiré. Ainsi l'apôtre Paul dit, si quelqu'un prophétise, qu'il le fasse selon la foi. Et ce terme, selon la foi, c'est en accord avec la foi, en lien avec la foi. C'est le principe de l'analogie de la foi, toutes les doctrines de la foi. Ainsi, quand nous interprétons l'Écriture, nous avons à l'esprit toutes les doctrines principales de la foi, la doctrine de Dieu, doctrine de la Trinité, toutes ces choses qui sont si clairement enseignées dans la parole de Dieu. Et nous comprenons tout à la lumière de ces choses. Nous prenons souvent des exemples. Par exemple, les gens lisent Hébreux 6 et ils vont lire ce passage dans Hébreux 6 qui va leur donner l'impression, dans plusieurs versets de ce chapitre, qu'un vrai croyant peut perdre son salut et ensuite immédiatement réaliser « Non, ceci n'est pas possible, je dois comprendre de travers parce que la foi me dit » et cette doctrine de la foi répète toujours à nouveau cette doctrine de la persévérance des saints que les vrais croyants ne pourront jamais être perdus. Si une personne est réellement convertie, elle ne peut pas être perdue. Ainsi, je dois mal comprendre Hébreux chapitre 6, et alors je relis à la lumière de toute la foi et toutes les doctrines de la foi, et alors je comprends ces choses, et je réalise que ceci n'enseigne pas qu'un vrai croyant peut perdre son salut, mais ceci enseigne l'opposé même, et combien ceci clarifie toute chose de comprendre la parole de Dieu à la lumière de toutes les doctrines de la foi. Et l'apôtre Paul dit... Nous comparons les choses spirituelles avec les choses spirituelles. En d'autres termes, si un texte nous paraît peu clair, nous allons utiliser un autre texte qui parle du même sujet et nous laissons l'Écriture interpréter l'Écriture. Et ceci nous permet de comprendre. C'est simplement une parenthèse, mais ce sont là deux principes que les réformateurs ont redécouverts et ont mis en avant. L'Écriture est parfaite, disait-il. Elle n'est jamais obscure ou trop difficile à comprendre. Il n'y a pas d'autorité humaine qui peut se substituer à l'autorité de la parole de Dieu et qui a la seule autorité de l'interpréter. L'Église catholique était dans l'erreur. Et ceci nous est rappelé dans ce verset. Éprouvez toutes choses, examinez toutes choses. J'aimerais vous donner un exemple simple. Dans les années 80, soudainement, il y avait un nouveau phénomène qui est venu sur la scène évangélique parmi les églises, qui est venu de la ville de Toronto au Canada. C'est une église qui a commencé ceci et d'autres parmi les pentecôtistes. Ce phénomène pentecôtiste, c'était être baptisé dans l'esprit. Et peut-être vous avez vu ces choses sur ces chaînes de télévision chrétiennes. Et quelqu'un bouge la main et il y a des centaines de personnes qui tombent à terre, baptisées dans le Saint-Esprit. Combien de personnes se sont dit « Oh, j'aimerais faire partie de cela et j'aimerais expérimenter cela. » Et c'est là un exemple. Ils ne se sont pas dit « Oh, attendez un peu, qu'est-ce que c'est que cette nouvelle chose ?» Éprouvez toute chose, examinez toute chose. Abstenez-vous de toute apparence de mal, toute manifestation de mal. Ils ne se sont pas dit « Oh, où est-ce que je peux trouver cela dans la Bible ?» S'ils s'étaient posé cette question, c'est nulle part dans la Bible. Certains chrétiens, certaines personnes qui se disent chrétiennes, je ne sais pas s'ils sont réellement chrétiens ou pas, ont simplement inventé ces choses et ont imaginé et inventé ces choses. « Oh, mais cette personne dit qu'elle a eu une révélation. Oh, est-ce que cette personne a eu une révélation ?» Si ce n'est pas dans la parole de Dieu, dans le canon de l'Écriture qui est fini, qui est entier, il n'y a aucune autorité en dehors de la Bible. Et Christ a dit à ses apôtres deux fois dans Jean 14 et dans Jean 16, « Quand le Saint-Esprit viendra, il va vous amener dans toute la vérité. » La révélation sera complète à ce moment-là. Il n'y aura plus d'autre révélation après la fin de l'Écriture de la parole de Dieu, la Bible, est le produit final parfait de la révélation de Dieu à l'homme. Ou est-ce que nous voyons le baptême dans l'esprit, dans la Bible, et ces gens qui tombent à terre, et le prédicateur qui bouge la main, et il y a des centaines de personnes qui tombent à terre? Non, ce n'est pas dans la Bible. Où est ce commandement de faire cela? Il n'y en a pas. Où est l'exemple dans la Bible? Il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a quelque chose qui ressemble à cela dans la Bible? Rien. Ceci est entièrement contraire à toute l'éthique du Nouveau Testament. Non seulement c'est une erreur, mais c'est une erreur terrible, c'est une offense contre Dieu, c'est quelque chose qu'il n'a pas demandé, qu'il n'a pas donné et qu'il ne veut pas. Et certaines personnes ont simplement dit « Oh, je suis là, je suis oint par l'Esprit, suivez-moi ». Non, c'est un péché terrible qui fait errer les gens et qui les rend confus. Quel est le vrai problème ? Les chrétiens n'obéissent pas au Seigneur qui dit « Éprouvez toutes choses ». Où est l'Écriture qui parle de ces choses ? Où est l'exemple dans la Bible ? Où est le principe dans la parole qui est derrière cela ? Ceci n'est pas dans la parole de Dieu. Cette personne qui a mis ces choses en avant, en particulier parmi les charismatiques dans les années récentes, c'est un homme qui, toujours à nouveau, a été malhonnête. Et cependant, les gens ne voient pas le problème et ils continuent à écouter cet homme et à le suivre. C'est extraordinaire. Mais ce que je veux dire ici, c'est éprouver toutes choses. Nous n'avons pas besoin de suivre ces choses. Chers amis, est-ce que vous comprenez l'enseignement de votre Église ? Est-ce que vous avez éprouvé ces choses pour vous-même ? Est-ce que vous vous réjouissez de voir ces choses dans l'Écriture ? Est-ce que vous pouvez les expliquer, les défendre devant d'autres personnes ? Est-ce que vous allez vous tenir fermement derrière ces doctrines ? C'est là mon premier point que je voulais mentionner. Éprouver toutes choses. Ceci parle de notre devoir en tant qu'individu, de comprendre ces passages et cet arrière-plan qui est dans l'Écriture, dans toute chose que nous croyons, que nous faisons. Quand vous êtes sauvés, vous commencez là votre formation. Et ce n'est pas ma formation, c'est la formation du Seigneur. C'est la formation de la parole sainte, c'est la parole de Dieu qui vous enseigne. Et vous avez cette onction pour comprendre la vérité évidente et claire de la parole de Dieu. C'est là notre devoir. Que de ne pas continuer simplement, uniquement dans la première année de cette formation. Beaucoup de personnes sont encore à l'école maternelle pendant des années et des années, mais c'est notre privilège. L'Esprit nous a donné cette capacité et ce devoir que d'obéir à la parole de Dieu et de grandir, éprouver toutes choses. Et j'aimerais parler pendant quelques moments du mal qui est fait si nous échouons en cela. Éprouvez toutes choses, retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute apparence, toute manifestation de mal. Ce terme traduit par mal, il y a deux termes traduits par mal dans le Nouveau Testament. L'un de ces termes vient du terme grec qui signifie ce mal moral, cette méchanceté, cette impureté. Et l'autre terme vient du grec qui signifie mal dans le sens de faire du mal, endommager, détruire. Ce terme utilisé ici est le deuxième terme. Abstenez-vous de toute apparence de mal dans le sens où quelque chose qui vous fait du mal, qui a cette puissance de détruire, c'est quelque chose de mal. Mais ce qui a l'esprit ici en particulier, c'est que ceci vous fait du mal et détruit l'Évangile, détruit les âmes, détruit l'Église. Nous sommes sous une attaque, dit l'apôtre Paul, c'est là ce qu'il implique. Le diable et ses démons essayent de nous faire chuter et tomber. Il dit à Timothée, ce sont là des doctrines de démons. Des doctrines de démons, oui. Le diable et ses démons essaient de trouver des doctrines pour l'Église également et amènent certaines personnes à les enseigner. Et si vous n'examinez pas toutes choses, si vous ne réfléchissez pas, si vous n'éprouvez pas ces choses, alors peut-être vous allez pouvoir être emmené par ces doctrines de démons qui sont fausses et qui sont une offense contre Dieu et vont faire beaucoup de mal aux Églises. Nous avons ces choses dans notre pays, quelle tragédie! Si nous avions vécu au XIXe siècle, savez-vous, peut-être dans les années 1860, 70 ou 1880, la plupart des églises, qui étaient des églises baptistes par exemple, auraient été non seulement des églises qui croyaient dans la parole de Dieu, mais la plupart auraient été calvinistes également et très fermes dans la foi. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé pour causer tant d'églises ? Des milliers d'églises dans notre pays, et ceci parle uniquement d'une dénomination. De nos jours, la grande majorité des églises qui se disent baptistes ne sont pas évangéliques, ne croient pas dans la parole de Dieu, ne prêchent pas le salut en Christ seul. Ceci a disparu. Comment se fait-il? En si peu de temps, depuis par exemple, à peu près les années 1870, jusqu'à aujourd'hui, complètement disparu. Cette église a quitté l'Union baptiste en 1887, quand Charles Spurgeon, qui était le prédicateur de ce temps-là, a quitté l'Union baptiste parce que ses doctrines fausses rentraient dans cette dénomination, qui diminuait l'autorité de la parole de Dieu et les doctrines de l'Écriture. Et ces premières personnes qui ont quitté l'Union baptiste ont compris que, à moins de refuser ces choses, ce sera une tragédie pour l'Église, et c'est exactement ce qui s'est passé. Abstenez-vous de toute apparence de mal, de quelque chose qui vous fait du mal, ces mauvaises idées, ces fausses idées, ces mauvais enseignements. Et de même, dans l'Église anglicane, qui n'a jamais été pure, mais pendant la Réforme, les autels ont été mis de côté et il y a eu la prédication de parole de Dieu qui était fidèle. Mais l'hérésie est rentrée. Et à présent, qu'est-ce qu'il en reste? Oh, j'ai lu dans un journal, il y a peu de temps, quelqu'un qui décrit l'Église anglicane comme un mouvement marxiste. Et ceci est probablement la vérité pour la plupart des pasteurs et des archevêques et des prêtres de cette Église. Ces choses détruisent l'Église. Nous lisons les cantiques de Charles Wesley. Quelle bénédiction extraordinaire les Wesley ont eu dans l'histoire. Et maintenant, vous entendez ce qui vient des conférences méthodistes annuelles et ces choses qui sont pleines de péchés. Ils les déclarent justes. Et il y a très peu de gens qui croient réellement dans l'Évangile, dans cette dénomination. Ces idées qui font du mal. Et comment ces choses se sont passées? Au début de cela, il y avait le fait que les chrétiens individuellement n'ont pas éprouvé ces choses et n'ont pas compris ce qui était derrière ces hérésies. Et j'aimerais vous donner certaines catégories de choses que nous devons éprouver dans l'Écriture. Les doctrines du salut, les doctrines de Dieu, mais j'aimerais parler des doctrines du salut, parce que j'ai déjà parlé de ces choses. Historiquement, Rome a substitué Christ seul par l'Église, la puissance de l'Église, des cérémonies, de l'absolution du prêtre, des sacrements, et le salut est dans ces choses-là, dans l'Église catholique. Non pas uniquement Christ, et maintenant Christ est perdu, il est en arrière-plan, sa mort expiatoire n'est pas importante. Les réformateurs ont dit non, c'est la justification par la foi seule en Christ, dans son sang versé, cette foi en lui, cette repentance, cette conversion par lui. La doctrine du salut a été mise de côté. La doctrine du salut est souvent mise de côté, même de nos jours, par ceux qui disent être chrétiens et croire dans ces doctrines. Quand les évangélistes sont devenus superficiels, et certains font cela, ils réduisent la conversion uniquement au fait de marcher vers l'avant ou de lever la main ou de mettre votre main dans la main de Jésus ou quelque chose du genre « recevez Jésus dans votre cœur ». Ils ne mentionnent pas la repentance, ils ne mentionnent pas cette dépendance sincère de la croix uniquement en se confiant en Christ seul pour transformer votre vie et vous donner une vie nouvelle. Ainsi, ils mettent de côté le salut. Et ces gens disent qu'ils croient dans le salut. Et des milliers de personnes dans le monde viennent au christianisme de la mauvaise manière. Et pour beaucoup d'entre eux, leur vie n'est pas transformée. Et ils ne reçoivent pas la vie nouvelle. Et ils ne sont pas réellement convertis. Ils ne sont pas réellement ceux qui laissent le monde et reçoivent une nouvelle vie, une vie nouvelle. Parce que les évangélistes ont laissé de côté les choses essentielles, cette repentance sincère devant Dieu en nous confiant en Christ seul, en venant à lui pour la conversion, pour cette transformation, pour cette vie nouvelle, ces choses sont essentielles et vitales. Ainsi, il y a beaucoup d'églises où les gens pensent qu'ils sont sauvés, mais ils vivent encore leur vie passée, ils sont encore des gens mondains, ils sont encore exactement comme auparavant, simplement ils vont à l'église. Et à présent, les églises, pour les garder, rendent toutes ces choses plus simples. Et alors, tous les cantiques ont l'air de chansons mondaines, et le rythme du monde également, pour garder l'attention des gens, parce qu'ils n'ont pas réellement la foi, et ils ne sont pas intéressés dans ces cantiques profonds, pleins de doctrines pour adorer le Seigneur. Ainsi, toutes ces choses doivent être diluées pour que les gens les acceptent. Combien c'est triste, ce manque d'examination de toutes choses. Je me rappelle, dans les années 80, au début des années 80, quand ces premières églises ont commencé aux États-Unis, ce mouvement plein d'émotions et ces méga églises, l'idée de ce prédicateur, c'est « Oh, vous envoyez un questionnaire dans les environs et vous dites aux gens qui ne viennent pas à l'église, qu'est-ce que vous attendez pour l'église? Qu'est-ce que vous voulez voir dans l'église ?» Ainsi, les gens autour ont rempli ce questionnaire et ont dit ce qu'ils aimeraient voir dans l'église. Ils disaient « Oh, nous ne voulons pas cela, nous ne voulons pas ceci, nous ne voulons pas l'adoration, nous ne voulons pas l'adoration sérieuse et sincère de Dieu, entendre la parole de Dieu, non. Ce que nous voulons, c'est des églises où nous pouvons faire tout ce que nous voulons, où nous pouvons rentrer, sortir, où il y aura du théâtre, des divertissements, des chansons, toutes sortes de choses. » Alors le prédicateur dit « Ok, c'est ce qu'on va vous donner. D'accord, on va vous donner ces choses. » Et alors, ce mouvement émotionnel est né. Et l'Église a été formée par ces gens mondains pour leur donner exactement ce qu'ils voulaient. Ces rythmes importants, ce théâtre, ce divertissement, ces chansons et toutes ces choses ont été faites pour ressembler le moins possible à une église, pour attirer les gens, uniquement pour avoir un grand nombre de personnes. Et alors des centaines, des milliers de personnes sont entrées. Et ce prédicateur qui a commencé ces choses était un homme qui avait une personnalité qui facilement gagnait les gens. Et il est allé dans le monde entier pour promouvoir son nouveau mouvement. Et je me rappelle que je suis allée sur la côte sud et il y a certaines personnes qui m'ont parlé, qui sont allés dans certaines de ces rencontres. Et ils ont été tellement pleins de charme. Et je leur disais, mais qu'en est-il de cela? Ce n'est pas dans l'Écriture, ce n'est pas scripturaire, ce n'est pas ainsi que nous devons faire ces choses, en ne mentionnant pas la conversion, la repentance, le péché, en ne mentionnant pas ces choses que les gens ne veulent pas écouter. Oh, j'entendais alors, on m'a répondu, oh, vous devez simplement être là dans cette rencontre. Cet homme est clairement un homme de Dieu. Il est si extraordinaire, si bon, si bien. Mais éprouvez toutes choses, examinez toutes choses. Et eux, ils ont été complètement enveloppés et trompés par cet homme, par sa bonté apparente. Mais il était sérieusement dans l'erreur. Il était à des milliers de kilomètres dans l'erreur, loin de la parole de Dieu, à l'opposé de la parole de Dieu. Et ainsi, je parlais à ces chrétiens qui ne pouvaient pas comprendre qu'il y avait quelque chose qui était erroné, parce qu'il était un homme si bon, soi-disant. Éprouvez toutes choses. L'Écriture d'abord, l'Écriture seule, c'est là ce que nous devons faire, c'est ainsi que nous devons vivre. C'est cela que nous devons suivre, les doctrines du salut, les doctrines de Dieu. Il y a même de nos jours quelques personnes dans les églises qui ne croient pas dans la déité éternelle de Christ, qui ne croient pas dans la Trinité. Ceci est incroyable, que des gens suivent ces prédicateurs avec ces pentecôtistes unitaires et d'autres. Ceci est extraordinaire. Ils n'ont pas examiné ce qu'ils entendent pendant des années, quelque chose de terrible. Les doctrines de Dieu, les doctrines de Christ, la doctrine de la sanctification. La plupart des pentecôtistes enseignent que la sanctification est une œuvre de grâce. Laissez Dieu faire. N'essayez pas de grandir dans la sanctification, mais visualisez Christ, regardez à lui, il fera tout pour vous. Et alors, vous n'aurez pas besoin de contribuer par aucun de vos propres efforts. Et c'est un autre exemple de quelque chose de terrible, parce que vous devez enlever presque la moitié des pages de votre Nouveau Testament si vous voulez croire en ces choses. C'est si contraire à la parole de Dieu, si absurde. Nous dépendons bien sûr de la puissance de Dieu, mais le Seigneur nous demande également de nous efforcer à grandir dans la sanctification et nous prions pour son aide, mais nous y mettons tous nos efforts. Tous ces commandements dans le Nouveau Testament pour la sanctification, ceux-ci ont besoin de nos efforts considérables. Oh, je manque de temps pour lire ces passages individuels, mais j'aimerais vous lire deux passages. Là, dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 12, sans aucun doute, vous connaissez ces versets. « Toutes choses me sont permises, mais toutes ne sont pas profitables, dit l'apôtre Paul. Toutes choses me sont permises, mais je ne me rendrai esclave d'aucune. » Et ensuite, verset 23, dans un verset similaire, il dit « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout n'édifie pas. » Et vous avez ici trois règles pour vos efforts dans la sanctification. Est-ce que je peux faire cette chose en tant qu'enfant de Dieu? Si vous buvez d'une certaine manière, ceci affecte votre humeur, votre comportement, et vous êtes amené sous la puissance de ces choses. Si vous écoutez ces musiques pleines de rythmes puissants, vous êtes amené sous la puissance de ces choses et vous en devenez dépendant, vous avez besoin de ces choses d'une manière désespérée. Si vous jouez, que vous pariez, alors vous allez dépendre de ces choses, vous allez en être dépendant. Est-ce que vous allez être sous la puissance de ces choses? Est-ce que ces choses édifient? Ce n'est pas « Oh, laissez Dieu faire !» Non, c'est appliquer les principes de la parole de Dieu à tout ce que vous faites. Est-ce que je peux faire cette chose? Ou est-ce que je peux faire cette chose autant que je la fais? Est-ce que ceci est en accord avec le fait que je suis un enfant de Dieu? Est-ce que je serai sous la puissance de ces choses? Est-ce que c'est édifiant? Et ce sont là les règles. C'est une parenthèse. Mais si vous pensez à ces choses, est-ce que c'est Dieu seul qui fait ces choses? Vous n'avez rien à faire? Non. Pourquoi est-ce que l'apôtre Paul nous donne ces principes par lesquels nous devons juger toutes nos activités, tout ce que nous faisons? Nous devons contribuer également avec nos efforts. Et pourquoi toutes ces exhortations de l'Écriture, alors, si c'est simplement Dieu qui fait tout? Il y a tant de mal qui peut être fait aux églises à cause de ces hérésies. Et je vais en conclure ici. Est-ce que vous éprouvez toute chose? Est-ce que vous êtes ferme? Est-ce que vous abstenez de toute apparence de mal, loin de tout le mal? Ce sont là les exhortations brèves de l'apôtre Paul. Est-ce que vous pouvez défendre les doctrines? Est-ce que vous pouvez les expliquer à d'autres personnes? Est-ce que la vérité, vous la comprenez? Nous avons grandi dans cette grande tradition du christianisme où la parole de Dieu, nous l'aimons, le Sauveur est prêché. Est-ce que ceci, nous y sommes complètement en accord dans notre vie? Oh, j'ai grandi dans une église qui n'était pas selon la parole de Dieu et toute chose qui rentrait était reçue. Et quand certains pasteurs plus âgés se levaient pour prendre position contre ces nouvelles doctrines qui rentraient, les gens disaient « Non, 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 ne parlez pas, soyez silencieux, vous faites trop de bruit par rapport à ces choses qui ne sont pas utiles. Laissez ces choses entrer. Est-ce que vous, vous allez défendre ces doctrines et les expérimenter ?» Éprouvez toutes choses. Nous avons considéré ce jugement personnel d'un individu et tout le mal qui peut être fait si nous laissons ces choses rentrer, que nous n'éprouvons pas toutes choses. Et l'exhortation, ce défi pour nous, que Dieu nous aide à lui être fidèle, et fidèle aux Écritures en toutes choses.